Allez, retour sur les ondes de Culture Monde pour une 10e saison. On reconduit à notre ambition de compréhension du monde, de ses enjeux politiques, de ses enjeux géopolitiques. On conserve les grandes lignes, les grands principes de ce magazine international. Un grand thème qu'on décline du lundi au jeudi. Et puis le vendredi, retour d'un reporter et une table ronde sur un sujet d'actualité internationale. On est ravis de reconduire également nos partenariats. D'abord avec Le Monde, l'association des prix Albert Londres, le réseau de dessinateurs Cartooning for Peace. Vous pourrez retrouver évidemment, comme plusieurs depuis plusieurs années maintenant, Brice Couturier, ce sera tout à l'heure vers 11h52. Et puis la bienvenue aussi à tous ceux qui nous rejoignent dans cette équipe, Hélène Lefrançois, Margot Leridon, Bertie Bourdon et Rosalie Suc. Salutations aux historiques, Mélanie Chalandon, Benjamin Hu, Vincent Bouchard qui assure aujourd'hui la réalisation et la technique, c'est Olivier Arnay. Une 10e saison qui tombe 3 décennies tout juste après 1989, une année particulièrement marquante durant laquelle le mur de Berlin allait s'effondrer, apportant la division Est-Ouest, ouvrant un temps nouveau, celui de la fin de l'histoire, de la victoire totale de la démocratie libérale, comme l'avait écrit Francis Fukuyama. Semaine spéciale sur France Culture, 1989-2019, 30 ans après la chute du mur. L'histoire continue, la démocratisation du monde est loin d'être achevée et les mouvements pro-démocratie sont toujours là. On va en parler cette semaine, ça sera notre première série consacrée aux aspirations démocratiques. On va parler de la Russie, on va parler du Soudan, on va parler de l'Égypte, de l'Algérie et d'autres pays encore, mais pour commencer, direction Hong Kong.
Carrie Lam semble avoir oublié ceux qui sont ses enfants, nous, les habitants de Hong Kong. Elle a prétendu ne pas entendre ni voir les troubles ni les manifestants blessés. Et elle les a même appelés des émeutiers. Cela nous a rendus furieux.
Nous voulons juste qu'Hong Kong reste Hong Kong. Nous ne réclamons rien d'autre.
Je ne peux pas dire combien de temps cela va durer. Tout dépend du gouvernement parce que les habitants de Hong Kong vont se battre jusqu'à ce que nos revendications soient entendues.
Depuis le mois de mars, les Hongkongais se rassemblent dans les rues pour protester contre une loi d'extradition vers la Chine continentale. Au-delà de ce texte, c'est la volonté du gouvernement chinois de resserrer son étau sur l'ancienne colonie britannique qui fait réagir la population, prête à affronter la police pour défendre son système judiciaire, son modèle, ses libertés individuelles. L'enjeu ne concerne pas seulement Hong Kong. Et questionne bien plus largement la capacité ou l'incapacité du régime chinois à réagir face à la critique de son système. Alors que révèle ce mouvement pro-démocratie du côté de Hong Kong? Quelles sont les stratégies mises en place par le gouvernement chinois pour contrer les volontés démocratiques à l'intérieur même de la Chine? Comment un régime autoritaire parvient à développer son économie tout en contenant les aspirations démocratiques de son peuple? 30 ans après Tiananmen, le gouvernement se sent-il menacé par un vent de défense de la démocratie? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités. D'abord, Ursula Gauthier, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, ancienne correspondante en Chine, à Pékin, pour l'Obs. À vos côtés, Michel Bonin, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes sinologue, directeur d'études, à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous avez probablement regardé l'actualité de ce week-end. Il y avait encore des manifestations avec des violences policières inédites, puisque pour la première fois, on a utilisé des canons à eau pour repousser les manifestants. Il y a même un policier visiblement qui a utilisé son arme à feu, on ne sait pas exactement dans quel contexte, mais il y a eu. On a senti très clairement que la tension montait à nouveau. Ça fait plusieurs jours, pour ne pas dire plusieurs semaines, qu'on évoque l'hypothèse d'une intervention militaire de l'armée chinoise. Est-ce qu'il vous semble que, depuis ce week-end, c'est encore plus probable? On va commencer avec vous, Ursula Gauthier.
Je ne pense pas qu'il y aura une intervention militaire rapidement, peut-être pas du tout. Parce que Hong Kong, ce n'est pas Pékin en 89. Hong Kong, c'est pas au corps. Pour qu'il y ait une intervention militaire, il faut d'abord que le régime soit en danger. Est-ce que le régime est en danger parce que, à sa marge, une ville extrêmement cosmopolite, qui est censée profiter déjà d'un pays, deux systèmes, est en soulèvement? Non, le régime n'est pas en danger.
Le régime n'est pas en danger, mais peut-être que précisément le principe du un pays, deux systèmes, lui, est en danger. Et donc peut-être que ça justifie une intervention. Je ne sais pas, Michel Bonin, qu'est-ce que vous en pensez vous?
Non, moi je suis d'accord avec Ursula. Je ne pense pas que le régime en vienne à intervenir réellement militairement. Il a menacé, évidemment.
Il y a eu une vidéo diffusée par Pékin où on explique qu'on a besoin de quelques minutes pour intervenir, que le territoire est vraiment... En moins d'une heure, on intervient.
D'abord, quels seront les coûts de cette intervention et qu'est-ce qui se passera après? Dire après, ils entreraient dans le début d'une guérilla urbaine qui n'est pas du tout qui n'ont aucune chance de gagner sur le long terme. Alors évidemment, ils gagneront forcément puisqu'ils seront les plus forts, mais ils pourront absolument pas rétablir un calme de cette façon-là. Je pense pas. Je pense qu'ils ont beaucoup plus l'intention d'utiliser au maximum le gouvernement et la police de Hong Kong. La police a l'air d'ailleurs d'avoir largement échappé au contrôle du gouvernement de Hong Kong et d'être probablement en partie dirigée directement par Pékin.
On dit même qu'on a envoyé des hommes qui ont noyauté police hongkongaise.
Je ne pense pas que ce soit nécessaire, parce que je pense en plus que ça serait dangereux parce que ça finirait par se savoir précisément. Non, je pense que c'est plutôt dans l'entraînement des policiers et dans les ordres qui leur sont donnés que les choses... les policiers, ils font ce qu'on leur demande. Et donc, si on leur demande d'être durs... Si on les met face à des situations désagréables, eh bien comme l'a dit aujourd'hui ou plus aujourd'hui, je crois le représentant du syndicat des policiers de base, on veut avoir le droit à utiliser plus de violence. C'est lui qui avait déjà décrit les manifestants comme des cafards.
Visiblement, ce droit-là, ils l'ont, puisque précisément, on a utilisé de nouvelles armes, et en l'occurrence des canons à eau, pour repousser les manifestants. Par exemple, cette montée en puissance de la riposte policière, Ursula Gauthier, elle est le fruit d'une décision de Carrie Lam, chef du gouvernement hongkongaise, ou elle est une directive de l'oncle Xi, qui depuis Pékin dit « maintenant, faut serrer la vis ».
C'est-à-dire, Carrie Lam, probablement, n'aurait aucun problème pour faire augmenter la violence. C'est pas quelque chose qui est contraire à sa religion, bien qu'elle soit catholique. Mais je pense que c'est plutôt le fait qu'elle obéit depuis le début. La vérité, c'est que Carrie Lam est un pantin dans les mains de Pékin. Alors, Xi Jinping ou les gens autour de lui. Enfin, en tout cas, elle n'est pas libre ni de ce qu'elle déclare, ni de ce qu'elle dit, ni de ce qu'elle fait. Donc, c'est très probablement, surtout à partir du moment où il y a eu une montée en puissance des manifestations et qu'il y a eu des millions de personnes dans les rues, là, probablement, on a bien vu les représentants du continent à Hong Kong tenir une conférence de presse directement, ce qu'ils avaient jamais fait, enfin ce qu'ils faisaient pas. Donc ils se cachaient toujours derrière le gouvernement. Donc c'est un signe pour dire que ce gouvernement de toute façon n'est plus vraiment capable de gérer la situation, et donc nous le faisons directement, sauf que eux-mêmes ne sont pas mieux informés évidemment que le gouvernement local, et c'est pour ça qu'il y a énormément d'incompréhension et sûrement de faux pas.
Michel Bonin, un pantin, dit Ursula Gauthier, c'est pas un petit peu fort?
Non, c'est tout à fait ça.
Carrie Lam n'a aucune marge de manœuvre.
Ah non, elle n'a aucune marge de manœuvre. Non, il faut bien comprendre la situation. C'est que Carrie Lam n'a aucun compte à rendre à la population de Hong Kong et à tous les comptes à rendre à l'oncle Xi, comme vous dites. C'est lui qui l'a choisi, c'est lui qui l'a élu, si on peut dire, indirectement par une commission électorale dont les membres étaient choisis par lui-même, enfin en tout cas par les autorités de Pékin. Donc c'est le problème de la démocratie, puisqu'on est aujourd'hui ici pour parler de démocratie, c'est le problème de base, et c'est quelque chose que les jeunes surtout viennent de découvrir en fait, parce que c'est une vieille histoire, la demande de démocratie d'élections au suffrage universel pour choisir le chef de l'exécutif, c'est une vieille histoire qui dure depuis 1982 au moins. Et donc c'est voilà. Mais pour les jeunes, ils ont découvert que ce gouvernement qui est censé être leur gouvernement n'est évidemment pas leur gouvernement. Ça aurait été très très simple pour Carrie Lam de régler le problème politique. Il suffisait de dire bon, je retire cette loi.
C'est ce qu'elle a fait assez vite.
Pourtant. Non, elle a suspendu.
Suspendu, oui.
Oui, mais attention, il y a une grande différence, et cette différence, elle a été expliquée à une réunion qui est intéressante parce que qui va dans la suite de ce qu'a dit Ursula, c'est-à-dire que la prise en main directement des affaires par Pékin. C'est une réunion qui a eu lieu à Shenzhen, dans laquelle 500 représentants pro-Pékin de Hong Kong ont été conviés. Et dans cette réunion, le responsable Zhang Xiaoming, donc celui qui est le responsable de Hong Kong au ministère des Affaires étrangères chinois, a dit clairement on ne peut pas retirer cette loi. Parce que ça voudrait dire que la coopération judiciaire entre Hong Kong et la Chine n'est pas un bon principe. Or, ils ne veulent pas ils veulent pas reconnaître que le problème de base depuis le début de tout ça, c'est l'angoisse que les Hongkongais ont face à cette absence de droit en Chine. Et donc, au fait que la justice n'existe pas en Chine de façon indépendante. Elle est entièrement dépendante des autorités politiques du parti.
On va revenir sur cette angoisse d'aujourd'hui. On va revenir aussi sur les racines de ce mouvement pro-démocratie à Hong Kong. Mais Ursula Gauthier, on parlait tout à l'heure des coûts d'une éventuelle intervention militaire de l'armée chinoise. Il y a aussi peut-être un autre coût de cette intervention, mais un autre coût plus général de cette crise à Hong Kong, ce serait celle liée à la guerre commerciale que Trump livre maintenant depuis plusieurs mois du côté de Pékin. Il a expliqué, alors je ne me souviens plus quelle est la nature exacte du tweet, mais en gros ce qu'il dit c'est que si intervention militaire il y a, ce sera très difficile d'obtenir un accord commercial. Donc là on voit bien que Washington a un levier justement pour mettre la pression sur Pékin, pour l'empêcher peut-être d'intervenir, mais peut-être plus généralement pour obtenir des concessions dans cette guerre commerciale qui se joue entre Washington et Pékin. Comment est-ce que vous voyez justement cette utilisation par Washington de ce levier-là hongkongais ?
Alors, il y a l'élément Trump et puis il y a la Maison Blanche. Enfin, il y a les équipes autour de Trump. C'est pas exactement la même chose. Trump lui-même a commencé par dire que c'était des émeutiers et qu'il comprendrait que la Chine s'en débarrasse à sa manière. Enfin, il a dit quelque chose de ce genre. Et puis après, probablement ses conseillers lui ont dit mais attendez, c'est un bon levier.
Il y a une opportunité.
Voilà. Et donc c'est puisque la seule chose qui compte pour Trump, c'est la guerre commerciale, c'est les concessions économique et commerciale qu'il veut obtenir de la Chine. Et donc là, il s'est rendu compte qu'il pouvait se servir de cette affaire. Sachant, en plus, on a dû lui expliquer que la Chine était vraiment dans une situation très difficile. C'est une situation lose-lose. C'est-à-dire, quoi qu'il fasse, les Chinois sont perdants. Donc, il s'en est servi. Et c'est là que c'est un élément de plus. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il met en avant, ce qui compte pour lui. En revanche, pour Pékin, pour en revenir au coup, il y a deux choses qu'il faut pas oublier, vraiment deux choses très importantes. Il y a le 1er octobre, là, prochain. Ça va être le 70e anniversaire de la fondation du régime. Alors, ce 70e anniversaire date historique s'il en est, puisque on pense que 70 ans, c'est le maximum qu'un régime communiste puisse vivre, n'est-ce pas, avec le précédent soviétique.
Qui mettez-vous derrière le « on » ?
Enfin, tout le monde, c'est un bruit qui court, enfin bon. En tout cas, Pékin, Xi Jinping, qui s'est montré le grand défenseur des régimes communistes en général, veut montrer que lui, il sait faire survivre, traverser cette étape dangereuse à son régime, à lui. Et donc, il faut que le 70e anniversaire se passe extrêmement bien, avec tous les invités internationaux qu'il veut faire venir. Alors, s'il fait une intervention militaire à Hong Kong quelques semaines avant, ça se passera pas. Donc, ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que Hong Kong, ça reste une place économique extrêmement, financière et économique, extrêmement importante pour la Chine, dont l'économie est en mauvaise posture, qui a besoin énormément d'investissements qui passent par Hong Kong. Parce que les contrats sont faits selon les lois, le droit
commercial de Hong Kong, qui est un droit avec des protections, etc. Et donc énormément d'investissements en Chine se font via Hong Kong. Et en ce moment, la Chine a besoin de ces investissements. Donc tuer cette Hong Kong, c'est ils ont beau dire que Shanghai, Shenzhen, etc. peuvent remplacer Hong Kong, ils savent parfaitement que ce n'est pas faisable.
Par ailleurs, le développement économique de la Chine continentale s'est fait assez largement par le truchement précisément de Hong Kong.
Exactement. Bon, c'est vrai que Hong Kong joue un rôle moins important aujourd'hui, mais reste toujours important.
Michel Bonin, regardons peut-être ce que sont aujourd'hui les exigences des manifestants du côté de Hong Kong. On a dit au début, ce qui met le feu aux poudres, c'est ce fameux texte d'extradition vers la Chine continentale. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus large que ça. Que veulent aujourd'hui les gens qui descendent dans la rue ?
Eh ben, ils ont 5 demandes. Donc la première, c'est le retrait définitif de ce projet de loi. Et puis, comme il s'est passé des choses, il y a eu un besoin de recourir à une certaine violence. Donc il y a eu l'accusation d'être des émeutiers et des arrestations, puisque ça c'est devenu très rapidement la stratégie, probablement dirigée par Pékin, mais la stratégie de la police de Hong Kong, qui est d'arrêter le maximum de jeunes. De personnes d'ailleurs, parce qu'on dit jeunes, mais on s'est aperçu que ça allait de 13 à 76 ans. Donc c'est presque comme Tintin.
C'est une sociologie très large. Alors,
c'est très large, mais bien entendu, il y a une majorité de jeunes, puisque c'est quand même assez risqué de faire ce genre de choses. Donc comme l'idée, c'est d'en arrêter le maximum et de les inculper d'émeutes. Et l'inculpation d'émeute peut mener à 10 ans de prison. Donc vous voyez, ça c'est une menace très importante. Donc ce qu'ils demandent, c'est la libération des personnes arrêtées et l'abandon de l'accusation d'émeute. Et puis
ils ont une chance de l'obtenir, ça.
Comment ?
Ils ont une chance de l'obtenir, ça.
Ça serait dans un régime normal. Je pense que s'il n'y avait pas Xi Jinping derrière, évidemment. Ça serait la première chose que ferait Carrie Lam, c'est-à-dire une amnistie pour tout le monde, y compris pour les policiers. Parce que là, c'est aussi la quatrième demande, c'est la demande d'une enquête indépendante sur
les violences policières.
Les violences policières et bon, qui peut être transformée sur les violences, y compris éventuellement celles des manifestants. Bon, donc ça, c'est très très important et ça a été refusé. Et puis la dernière, c'est la demande d'élections libres. Donc c'est le retour du mouvement des parapluies. Le mouvement des parapluies de 2014. Pendant 79 jours, les jeunes ont fait une espèce de mai 68 à Hong Kong, sauf qu'il n'y a pas eu les syndicats derrière, mais autrement, c'était vraiment un grand mouvement très très festif et mais qui n'a rien obtenu, absolument rien, simplement la répression, puisque après, un certain nombre de personnes ont été accusées et sont encore en prison aujourd'hui, ou viennent d'être libérées dans le cas de Joshua Wong.
Justement, que vous avez interviewé Ursula Gauthier dans le cadre pour votre journal, pour l'Obs. Sur la question justement des prisonniers, vous voulez ajouter un mot, Michel Bonin,
Cette question, parce que c'est fondamental. Les jeunes se sont rendus compte que ce gouvernement n'était pas leur gouvernement. Mmh. Et donc, s'ils voulaient que ça soit leur gouvernement, il fallait qu'ils puissent l'élire. C'est logique. Et donc, ils demandent qu'on revienne à cette idée de l'élection au suffrage universel. Voilà. Parce que l'élection au suffrage universel, elle était prévue dans les textes, y compris dans la loi fondamentale rédigée par Pékin. Simplement, il y a eu une manipulation qui a été faite pour dire que les candidats à cette élection pour le poste de chef de l'exécutif seront préalablement sélectionnés par une commission électorale. Alors, dans le texte officiel, je l'ai ici, il est marqué Nominating Committee in accordance with democratic procedures, en accord avec les procédures démocratiques. Mais les procédures démocratiques, ça veut dire Pékin choisit les 800 personnes qui décident. Et donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire démocratie? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Donc vous avez en Corée du Nord un pays qui s'appelle la République populaire démocratique de Corée. Donc, si les mots ont un sens, c'est évident que c'est une plaisanterie. Et là, cette élection...
ça veut dire que c'est exactement le même système qu'à l'époque du mouvement des parapluies de novembre 2014, parce qu'il était déjà question de ce problème-là de liste avec des candidats présélectionnés par Pékin. Voilà. Vous faites un peu l'amour, Ursula Gauthier, vous allez préciser. mais il y a peut-être un point sur lequel je voulais vous entendre, Ursula Gauthier, c'est celui de des je vais les appeler comme ça, peut-être que c'est pas une bonne formule, de prisonniers politiques, parce qu'il s'agit quand même de ça. Vous avez interrogé justement l'un des jeunes leaders à l'époque du mouvement des parapluies. Il va falloir à un moment sortir de cette crise. Alors, si on n'obtient rien du côté du scrutin, du mode de scrutin, si on n'obtient rien du côté des violences policières, il va falloir quand même qu'on obtienne quelque chose quelque part, et peut-être que la question justement des prisonniers politiques serait un point, car Ilham pourrait décider de précisément lâcher un tout petit peu la bride, libérer les personnes qui sont aujourd'hui inculpées en phase de procès. Est-ce que vous y croyez à ça?
On vient de libérer Benny Tai, c'était un des leaders du mouvement de 2014. Il vient d'être libéré.
Il est arrivé à la fin de sa condamnation.
Benny Tai, c'est parce qu'il est en appel.
Libération anticipée.
C'est en bail.
Il est libéré sous caution.
Je vous en prie.
Mais donc, on a fait ce geste quand même. Ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent faire des petits gestes de temps en temps, mais maintenant, le problème à Hong Kong, c'est qu'il suffit pas de faire des gestes. La situation s'est trop radicalisée. Et ça avait commencé de façon extrêmement modérée, je dirais, y compris quand il y a eu les très très grandes manifestations à 2 millions de personnes. C'était la fin de la loi d'extradition parce que tout le monde s'est senti visé. Avec cette loi d'extradition, n'importe qui se trouvait sur le territoire de Hong Kong pouvait être le sujet d'une demande d'extradition de la part de n'importe quel tribunal chinois du continent et se retrouver embarqué et ramené sur le continent sans qu'un juge hongkongais n'ait rien à dire, puisque le juge hongkongais ne devait statuer que au vu du dossier monté par le tribunal chinois. Il ne pouvait même pas localement écouter un témoin dire « Mais non, mais ce monsieur, il n'était pas en Chine au moment où on dit qu'il a écrasé 30 personnes avec sa voiture. Il était ici, j'étais avec lui. » Donc, il peut même pas faire ça. Donc, tout le monde s'est senti en danger de se retrouver emmené en Chine et donc à la merci du système. Donc, il n'y avait plus déjà un pays de système. Un pays de système était déjà mort, d'une certaine façon, avec cette loi d'extradition. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les jeunes, c'était surtout des jeunes au début, ont commencé à demander ça, juste cette loi-là. Si Carrie Lam avait non seulement suspendu, mais retiré la loi, le problème du retrait, c'est que tant qu'elle est en poste, elle a le droit, elle pouvait à n'importe quel moment le représenter en douce au Conseil législatif et le faire passer vraiment en douce. Donc, ils ne voulaient pas qu'il y ait ce problème-là et ils ont demandé cela. Elle a refusé et c'est à partir de ce moment-là que les choses ont escaladé. Mais la vérité, c'est que maintenant, on est face à face à deux intransigeances. Les Hongkongais ont compris que c'était leur dernière chance d'obtenir quelque chose pour que leur système perdure encore pendant les 30 ans qu'on leur a promis par un pays de système. Ils pensent que c'est là maintenant que ça se fera et que s'ils cèdent maintenant, ce sera fini pour de bon et tout de suite.
On va revenir justement sur 97 et donc pour décortiquer un tout petit peu les choses sur ce principe d'un pays de système. Et Michel Bonin, je voudrais qu'on regarde du côté d'en face parce qu'il y a aussi un camp pro-Pékin à Hong Kong aujourd'hui. Alors moi, j'aimerais savoir ce que ça représente. Et est-ce qu'on pourrait se retrouver dans une situation où, au fond, à l'intérieur même, au fond de Hong Kong, on aurait ce qui ressemblerait, alors je vais mettre toute une série de guillemets, mais une forme de, sinon guerre civile, au moins de confrontation des Hongkongais entre Hongkongais eux-mêmes?
Oui, il y a des gens qui sont pro-Pékin, mais ils sont très largement pro-Pékin pour des raisons d'intérêt. Vous avez notamment des gens qui, depuis longtemps, soit des hommes politiques ou des femmes politiques, qui depuis longtemps se sont mis du bon côté, du côté du manche. Donc ceux-là, ils peuvent pas. Bon, mais ils représentent pas non plus une force très très importante.
Numériquement, c'est pas énorme.
Il y a les hommes d'affaires, et les hommes d'affaires, c'est très complexe. complexe, parce que les hommes d'affaires, ils dépendent entièrement de la bonne volonté du parti pour pouvoir faire des affaires en Chine. Et donc ça, c'est très important. Mais en même temps, ils étaient très hostiles à ce projet d'extradition, parce que ils auraient pu, pour des raisons commerciales, de coopération en Chine avec des entreprises qui voudraient par exemple leur voler leur capital, etc., ils pouvaient se retrouver embarqués en Chine et accusés de n'importe quel crime pour des raisons qui ne sont pas des raisons justes. Hein. Et donc, de ce point de vue-là, ils sont finalement, les hommes d'affaires ne sont pas très clairs de ce côté-là. Hein. Et donc, il reste quoi ? Il reste les gens, les syndicats pro-Pékin, qui sont financés par le parti. Donc, alors évidemment, ceux-là, ils n'ont pas le choix. Hein, et donc, ils doivent soutenir. Mais en fait, l'immense majorité de la population est tout à fait du côté des manifestants. On l'a vu, il y a eu un sondage d'opinion qui a été bien réalisé de façon très très sérieuse. Il y avait 80% de la population de Hong Kong qui était pour la création d'une commission indépendante sur les violences de la police. Donc vous voyez ce que ça représente. Donc et puis bon, quand vous avez plus d'un quart de la population qui est dans la rue dans n'importe quel pays, ça, c'est très très rare. Ça veut dire que la quasi-totalité de la population est derrière vous.
Merci à Gauthier encore, non ?
Et là-dessus, il faut dire, il y a une très grande différence par rapport à 2014, au mouvement des parapluies. En 2014, il y avait une vraie scission au sein de la population. Il y avait les jeunes qui voulaient plus de démocratie, élections, etc. Et puis, il y avait des tas de professions, de petites professions chinoises. Moi, je me souviens, j'ai couvert les deux. Tous les chauffeurs de taxi étaient systématiquement contre les jeunes.
Et ils n'en pouvaient plus des blocages.
Ils n'en pouvaient plus, ils trouvaient que ça, etc. Les boutiquiers étaient contre, les petits restaurants étaient contre. Tout ce qui pouvait, d'une certaine façon, souffrir de ça. Aujourd'hui, c'est pas du tout la même situation. Tout le monde est pour. Et pour ce que disait Michel, c'est que tout le monde peut être extradé. Mais tout le monde a des affaires sur le continent. Tout le monde va en Chine pour ceci ou cela, faire des petits business, etc. Et donc, tout le monde est susceptible de se retrouver un jour renvoyé en Chine sur une fausse accusation.
Vous écoutez Culture Monde, vous écoutez France Culture, 11h26, on poursuit notre série consacrée aux aspirations démocratiques, on parle de Hong Kong. Si on fait très rapidement un peu l'histoire d'Hong Kong, on a les Britanniques qui débarquent à la fin des années 1830, on est en pleine guerre de l'opium, à l'époque on a quelques milliers de pêcheurs là-dedans, pas beaucoup plus. Progressivement, le Royaume-Uni va un petit peu agrandir son territoire. On a en 1898 un bail de 99 ans qui est mis en place. On a une toute petite parenthèse durant la Seconde Guerre mondiale avec cette occupation nippone. Ensuite, ça revient dans l'escarcelle britannique. Et puis à partir des années 60, on en parlait tout à l'heure, il y a vraiment ce développement économique très très fort de Hong Kong qui va servir par ailleurs la Chine continentale jusqu'à ce que le territoire revienne précisément dans le giron de la République populaire de Chine. On est en juillet 1997, archives.
L'histoire en marche et les Hongkongais qui la regardent passer. Ce matin, dès l'aube, l'armée populaire de libération reprend possession de la colonie britannique. À l'appel du comité de quartier, les riverains sont tombés du lit pour venir acclamer les nouveaux maîtres du territoire. Des militaires à la tête remplis de leur mission, laver l'affront infligé par les Britanniques lors des guerres de l'opium au 19e siècle.
Après 150 ans de contrôle colonial sur Hong Kong, je voulais voir les soldats arriver, leur souhaiter la bienvenue et admirer la puissance de leur armée.
Alors voilà ce qu'on diffuse dans les journaux en France, Michel Bonin, mais peut-être que les témoignages qu'on n'entend pas, c'est aussi ceux des personnes qui sont inquiètes de voir débarquer précisément ces militaires chinois le 1er juillet 97. Est-ce que c'est là que commence au fond le début du mouvement pro-démocratie à Hong Kong ?
Non, ça commence avant. Ça commence avant, puisque 97, bon, c'est un peu la fin de, c'est la fin des haricots, je dirais. C'est-à-dire que c'est le, je veux dire, là, il y a plus rien à faire. Ce qui s'est passé, c'est avant, entre, disons, 1979 et 97. Hein. Et puis, il faut bien comprendre aussi que c'est même avant, puisque les autorités chinoises se sont opposées à la décolonisation de Hong Kong. C'est ça qui est important à comprendre, hein, c'est que et même dès les années 60, alors qu'il y avait que la Chine était complètement fermée, on a maintenant, grâce à l'ouverture des archives britanniques, une note de Zhou Enlai, donc le ministre des Affaires étrangères chinois de l'époque en 61, je crois, disant toute démocratisation et préparation de Hong Kong à l'indépendance serait considérée comme un acte hostile, c'est-à-dire qui justifierait une invasion de Hong Kong.
Un casus belli.
Et en 71-72, quand la Chine a repris, enfin la Chine communiste a repris le poste de la Chine aux Nations Unies, qui était avant tenu par le parti nationaliste et qui est réfugié à Taïwan, il a immédiatement fait retirer de la liste des territoires à décoloniser Hong Kong et Macao. Hein, donc c'est très clair, ils se sont opposés à ça. Et le problème fondamental, si vous voulez, c'est qu'à partir du moment où on arrive en 1979, à une illusion sur l'ouverture de la Chine. Hein, 79, c'est le début de la réforme et l'ouverture, et donc tout le monde est optimiste sur le futur de la Chine, son ouverture et peut-être sa libéralisation. Hein. Et puis il y a le problème des baux pour les propriétés dans les nouveaux territoires qui sont britanniques uniquement jusqu'en 97, d'après la loi. Et donc, la question se pose, ce sont les Anglais qui ont demandé aux Chinois, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, en disant, mais nous, on veut bien rester, si possible. Et donc, ça, c'est important. C'est le moment où la question se pose. Et peut-être une dernière chose quand même, c'est que, ensuite, il va y avoir des négociations entre les Britanniques et les Chinois, mais jamais on ne va demander l'avis des Hongkongais. Donc c'est absolument antidémocratique, il n'y a jamais eu... Et il y a eu des sondages d'opinion en 1982 qui ont été réalisés, des sondages d'opinion qui n'avaient pas valeur internationale, etc., des simples sondages d'opinion qui donnaient 95% de la population pour le maintien des Anglais à Hong Kong.
Ursula Gauthier, je vais me permettre une question un peu folle. J'ai un peu une idée de la réponse, mais je vais la lancer quand même. Est-ce que ce mouvement pro-démocratie à Hong Kong pourrait se diffuser dans la Chine continentale ?
Ah, c'est la question, ouais, à $1 million. Non, je pense pas, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le contrôle de l'information et aussi des réseaux sociaux, enfin tous les canaux informels d'information, est plus que jamais complètement verrouillé par Pékin. Aujourd'hui, ne passent pas les informations dont Pékin ne veut pas. Donc, l'image, ils ne font pas juste que bloquer les informations dont ils sont pas contents. Ils remplacent par une avalanche d'informations qui vont dans le sens contraire. Et il y a toute une industrie en ce moment qui remplit.
Pékin a toujours fait ça depuis 1949.
Non, là, ils le font beaucoup mieux. Ils remplissent tous les réseaux sociaux avec plein d'informations de fake news, évidemment, avec des films, etc., où ils montrent à quel point ce sont des émeutiers, des bandits, et des gens violents, et etc., etc. Et qui sont à la solde, évidemment, des Américains. Donc, c'est assez difficile que le mouvement se propage via l'information. Autrement, les Chinois ont un problème psychologique avec Hong Kong, les Chinois du continent. C'est qu'ils se disent, ils sont déjà privilégiés. Ils ont déjà plein de liberté. Ils ont la capacité de voyager sans visa dans le monde entier.
Donc ils n'ont pas d'empathie vis-à-vis de ce mouvement pour la démocratie.
Non, il n'y a pas beaucoup d'empathie et ils ne comprennent pas que ces enfants gâtés en demandent encore plus. C'est un peu ça ce qui se passe. Évidemment, il y a des gens, ceux qui ne sont pas dans cet état d'esprit n'ont pas le droit de s'exprimer. Donc évidemment, la grande masse ne peut pas changer d'avis.
Voilà. 1992, Francis Fukuyama publie « La fin de l'histoire », un best-seller qui défend cette idée qu'au fond, la progression de l'histoire humaine, c'est d'abord un combat entre les idéologies et que est en train d'advenir un monde où la démocratie libérale va s'imposer. Petite archive, 1992, Francis Fukuyama.
Mon livre tente de poser une question plus large, à savoir s'il existe une histoire de l'humanité qui tienne compte des expériences de tous les peuples sur toutes les époques, à savoir s'il y a une sorte d'évolution cohérente dans le développement des sociétés, qui passe d'un modèle agricole pour aller ensuite vers d'autres modèles monarchiques, aristocratiques, jusqu'à la démocratie libérale et au capitalisme mené par la technologie que nous connaissons aujourd'hui. La fin de l'histoire reste une question. Est-ce que ce processus débouche sur un certain type de civilisation, celle que l'homme peut atteindre, celle qui correspond à la nature humaine ? Ce que je soutiens dans ce livre, c'est que la démocratie libérale s'adapte beaucoup mieux à la nature humaine, dans ce sens que n'importe quel autre type de gouvernement, d'organisation politique ou d'organisation sociale que nous avons connu auparavant.
Voilà ce que disait donc Fukuyama en juillet 1992, au moment de la sortie de ce best-seller. Il se trompait visiblement s'agissant de la Chine. La démocratie libérale s'adapte beaucoup moins visiblement que ce qu'on aurait pu penser.
Je pense qu'il se trompait très très lourdement. D'abord, l'idée même de la fin de l'histoire est une absurdité. Je l'ai dénoncé dans un article que j'ai écrit en 2001 sur la nature du régime chinois. Et j'ai toujours été surpris qu'on considère que 1989 soit le début de la victoire de la démocratie. 1989, c'est effectivement l'effondrement du mur de Berlin, mais c'est aussi l'écrasement de Tiananmen. Mmh. Et donc c'est une vision complètement européocentriste que de dire que c'est la victoire de la démocratie.
Ursula Gauthier.
Je trouve qu'il dit quelque chose d'un peu plus subtil. Il dit que c'est plus adapté à la nature humaine. Il ne parle pas, évidemment, de la nature des régimes. Je pense que, au contraire, je pense que ce qui se passe à Taïwan depuis 20 ans maintenant, lui donne un peu raison. C'est-à-dire, vous savez, en Chine, les historiens, les spécialistes de la civilisation chinoise sont essentialistes. Ils disent, la Chine, c'est très particulier, c'est spécial. En Chine, la Chine, la civilisation chinoise, l'histoire chinoise, l'écriture chinoise, que sais-je, tout ça, ça pousse les Chinois à ne pas avoir besoin de démocratie, à ne pas aimer la démocratie, à ne pas vouloir des libertés, etc., etc. Ce qui est évidemment complètement faux, parce qu'il suffit de regarder quand un régime n'est pas entre les mains, quand un pays, quand un groupe de Chinois n'est pas entre les mains d'un régime qui ne recule devant rien pour maintenir son autorité, comme c'est le cas à Taïwan, et même, on peut dire à Hong Kong, d'une certaine façon, des aspirations à la liberté, à un régime politique libre, libéral, sont évidemment sont très présentes et s'expriment très fort.
Et attendez, je vais aller justement, pardon, hein, et je vous donne la parole, monsieur Bonhomme, je vais aller dans cette vision essentialiste, essentialisante. On pensait, Ursula Gauthier, qu'effectivement le développement économique, la prospérité allait produire effectivement de l'aspiration de l'aspiration démocratique, pardon. Quand on regarde en Chine, certes, il y a évidemment des mouvements, certes, il y a des aspirations, mais au global, on n'a pas l'impression que la démocratie soit un enjeu essentiel. Peut-être d'ailleurs parce qu'on a une certaine représentation de la démocratie, qu'on oublie qu'il y a peut-être d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte et qui d'une certaine manière répondent là aux aspirations des Chinois. Je pense par exemple au principe de méritocratie. Ce n'est pas une démocratie, mais c'est un système qu'on dit méritocratique, le régime chinois. Est-ce que finalement on passe pas à côté d'aussi d'une certaine conception d'une démocratie à la chinoise?
Moi, j'ai une réponse là-dessus. C'est quand le web a été un peu libre pendant quelques années, dans les années 2000 jusqu'en 2011 à peu près, oui. Il y a eu une énorme demande de liberté et de démocratie. Mais alors, là, quelle démocratie? Ils n'ont pas d'expérience démocratique, donc c'est un peu vague, il faut le reconnaître. Mais il y a eu une énorme demande qui s'est exprimée sur le web, et c'était partout, partout, partout. C'était pas juste quelques intellectuels ou quelques avocats, ou quelques journalistes. C'était vraiment une demande très répandue.
Voilà, Michel, c'est pour Bonhomme. Ça, je suis d'accord. Pour revenir sur Fukuyama, je suis d'accord. Si il dit la démocratie est un régime qui est plus près de la nature humaine, je suis d'accord. Mais ça, on le savait depuis au moins les Lumières. les lumières européennes. Mmh. Donc, voilà. C'est dire que c'est en 89 que ça a changé, à mon avis, c'est une absurdité. Je suis d'accord aussi sur cette idée, justement, que les Chinois, ils sont aussi des hommes, donc ils ont aussi des envies de liberté. S'il n'y avait pas ça, pourquoi est-ce que le budget qui est attribué aujourd'hui par le Parti communiste chinois à ce qu'il appelle le maintien de la stabilité est plus élevé que le budget de la défense qui est pourtant déjà très élevé. Parce qu'il y a cette
qu'il y a dans ce budget derrière
dans ce budget
cette
c'est
ligne.
La police la justice
et puis surtout types de police, il y a
et puis surtout la police de la pensée. Il y a des dizaines de milliers de gens peut-être des centaines de milliers qui sont payés pour surveiller les autres et notamment surveiller sur Internet et empêcher que des messages mauvais soient mis en place. Il y a des enquêtes qui ont été faites. Il y a même des espèces d'usines qui ont été créées dans des endroits pas chers. C'est parce que c'est comme chez nous, on délocalise pour que ça soit moins cher dans des petites villes de province. Vous avez d'énormes machines qui sont des lieux où on censure. Ce sont des usines à censurer.
On appelle les usines à trolls.
Voilà. Mais pas seulement à trolls. Justement, les Chinois ont fait d'énormes progrès dans cette technologie qui est une technologie de contrôle qui n'aura plus besoin de recourir justement à l'armée et qui viendra écraser dans le sang. On coupe l'herbe à la racine. Donc, en fait, on fait en sorte d'amuser les gens avec des tas de nouvelles absolument sans intérêt où on verra des petits chats en train de tomber, etc., ou de se faire des papouilles, etc. Donc, voir des jolies filles, des choses comme ça. Mais pour que les gens, d'une certaine façon, on décérèbre. Voilà. Et puis, à côté, on met en place un système de contrôle absolument monstrueux qui est la première instance dans l'histoire humaine de contrôle technologique via l'intelligence artificielle, les logiciels de reconnaissance faciale, etc. Donc, tout ça, pourquoi si tout le monde était content? Mais bien sûr, c'est parce que personne n'est content, y compris les gens du parti.
Et je dirais Michel que aujourd'hui, la Chine est un mélange de 1984. Donc, on n'a jamais eu une surveillance pareille dans l'histoire mondiale. 1984, mais aussi, comme tu le dis, le meilleur des mondes, d'Aldous Huxley. C'est-à-dire aussi donner des loisirs, donner de l'argent, donner pour que les gens ne pensent pas aux choses sérieuses.
On était avec vous, Ursula Gauthier, Michel Bonin. On parle d'aspiration économique, on parle d'Hong Kong, mais beaucoup plus, et on va prendre la direction du Vietnam, où le Vietnam, en juin 2018, on avait des manifestants qui s'opposaient à la création de nouvelles zones économiques spéciales dont on considérait qu'elles étaient destinées à servir essentiellement les intérêts de Pékin. Voilà, on entend là ces heurts. Alors, ce n'était pas du tout la première fois qu'Hanoï était le théâtre de manifestations anti-chinoises. Il y avait eu en 2014 déjà un certain nombre de mouvements à propos là des revendications chinoises en mer de Chine méridionale. Bonjour Jean-Louis Margolin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'université d'Aix-Marseille. Comment est-ce qu'on peut interpréter ces manifestations de juin 2018? Qu'est-ce qu'on rejetait au fond dans ce projet? La politique économique d'Hanoï? Ou est-ce que c'est un rejet plus global de l'influence chinoise dont on regardera tout à l'heure? Quels sont ses effets précisément sur la démocratisation ou pas des pays de la région? Jean-Louis Margolin, qu'est-ce qu'on rejette là-dedans?
Oui, alors il me semble qu'il y a au moins trois rejets à travers ces manifestations. Ce que vous avez signalé, c'est-à-dire l'influence croissante, un peu comme dans toute la région d'ailleurs, de la Chine et ce qui est vu comme une manière par la Chine d'imposer finalement ses investissements, d'imposer ses zones au gouvernement vietnamien. Un rejet également donc de ce gouvernement vietnamien évidemment très autoritaire. Il s'agit, faut-il le rappeler, d'un régime fondamentalement du même type que celui de la Chine, régime de parti unique, à tradition totalitaire, même s'il a connu un certain nombre d'évolutions et un certain nombre d'ouvertures dans les dernières décennies. Et puis enfin, un rejet de type écologique, donc dans une région, dans un pays très densément peuplé, où la nature a déjà été très fortement atteinte par l'urbanisation et le développement industriel, une volonté quand même de préserver ce qui peut encore être préservé de l'environnement, de la biodiversité, etc. Il ne faut pas non plus négliger tout à fait la possibilité de conflits au sein même du régime, puisque les relations entre le Vietnam et la Chine ont pour le moins été historiquement troublées avec un certain nombre de hauts, mais aussi beaucoup de bas. Et donc, il peut y avoir aussi, derrière ces manifestations, l'influence de certains éléments du parti qui pourraient vouloir déstabiliser certains dirigeants comme étant trop soumis avec un...
Jean-Louis Margolin, traditionnellement, il y a une certaine méfiance, c'est un euphémisme, des Vietnamiens du Vietnam vis-à-vis de la Chine. Et malgré cette méfiance, on a ces dernières années, on observe un rapprochement très fort entre Hanoï et Pékin, et notamment quand on regarde un peu les investissements réalisé par la Chine du côté du Vietnam et plus largement dans la région. Quand on voit, là, je reparlais des manifestations, quelques semaines après ces manifestations, il y a une décision du gouvernement vietnamien qui va prendre un certain nombre de décisions, une loi restreignant les libertés d'expression, notamment sur Internet, il y a l'interdiction d'appel au rassemblement. Donc on a le sentiment que, d'une certaine manière, le rapprochement du Vietnam avec la Chine s'accompagne, je ne sais pas si ça produit, mais en tout cas s'accompagne, une forme de recul de la démocratie. Est-ce que c'est quelque chose qui est spécifique au Vietnam, ou est-ce que c'est quelque chose qui, au fond, concerne tous ces pays-là de l'Asie du Sud-Est, qui sont sous influence au moins économique, et qui, bah, politiquement, au fond, on voit peut-être des reculs démocratiques de façon plus générale. Jean-Louis Margolin.
Oui, vous avez tout à fait raison. Enfin, dans le cas du Vietnam, peut-on parler de recul de la démocratie dans un pays qui, au fond, n'a jamais été démocratique? C'est un petit peu comme dans le cas de la Chine. Je parlerais plutôt d'aggravation de l'autoritarisme ou d'un retour partiel seulement, n'exagérons pas les choses, au totalitarisme des années 50, 60, 70.
Oui, alors, recul, c'est mal choisi, Jean-Louis Margolin. Pardon de vous couper et je vous laisse poursuivre. Mais si on regarde, par exemple, la Birmanie, on avait parlé vraiment d'une ouverture, on disait, voilà, ils sont sur le chemin de la démocratisation. J'aime pas beaucoup cette formule, mais utilisons-la. On dit aujourd'hui que cette démocratisation, elle est carrément au point mort, et si ce n'est peut-être en recul. Est-ce que, par exemple, le recul démocratique, et je mets des guillemets, en Birmanie, c'est aussi le fruit de l'influence chinoise?
Oui, dans une certaine mesure, mais enfin, bon, on a aussi des questions internes, bon, la question des Rohingyas, dont on a beaucoup parlé ces jours derniers à l'occasion du deuxième anniversaire du déclenchement de cette crise majeure. On a quand même le maintien d'une très forte influence de l'armée birmane, certes, armée birmane qui est aujourd'hui dans une stratégie de rapprochement avec la Chine, qui est peut-être le cheval de Troie, en quelque sorte, de l'influence de la Chine en Birmanie. Mais enfin, bon, là, j'attribuerais essentiellement cette impression de blocage pas complet, d'ailleurs, n'exagérons pas les choses, du processus de démocratisation, à la conflictualité interne, plus à la difficulté, finalement, de trouver un minimum de consensus entre les différents groupes politiques et les différentes ethnies d'un pays extrêmement complexe et à tradition très, très négative de ce point de vue-là, qui a une influence extérieure. Mais enfin, évidemment, l'influence de la Chine n'améliore rien. Plus généralement, malgré tout, dans le cas de la Birmanie, comme dans les autres pays de la région, je dirais que l'influence de la Chine, du fait même de sa puissance économique au niveau du commerce, au niveau des investissements, amène finalement une sorte de rééquilibrage très négatif pour les forces démocratiques du rapport de force par rapport à ce qu'on avait auparavant. Auparavant, finalement, l'influence de l'Occident, pris généralement dans l'Europe que les États-Unis, allait plutôt dans le sens de l'idée que si on voulait se développer, si on voulait bénéficier de ce commerce, de ces investissements, il fallait faire quelques réformes, plus ou moins cosmétiques, plus ou moins radicales, dans le sens de la démocratie. Alors qu'aujourd'hui, finalement, l'influence de la Chine va exactement dans le sens inverse. Et évidemment, il y a quelque chose de profondément négatif qu'on ressent un peu partout. Mais pour moi, l'exemple le plus spectaculaire de ce retournement de tendance, c'est quand même celui de la Thaïlande. La Thaïlande qui, depuis une trentaine d'années maintenant, faisait office en quelque sorte de meilleur élève de la classe démocratique en Asie du Sud-Est, une classe démocratique d'ailleurs comprenant fort peu de pays. Et aujourd'hui, depuis le coup d'État militaire d'il y a 5 ans, depuis la promulgation d'une constitution qui, au fond, pérennise le pouvoir de l'armée dans les institutions, autour également de ce renforcement symbolique de la monarchie qui entraîne des procès pour crimes de lèse-majesté au front de toute personne critiquant le système politique, avec là aussi une loi sur la cybercriminalité, on a l'impression d'un complet retour en arrière vers une forme de dictature, et c'est quand même très emblématique d'une évolution d'ensemble, puisque par ailleurs, la Malaisie a certes accordé la victoire à l'opposition, mais au fond, avec le retour au pouvoir d'un ancien Premier ministre extrêmement autoritaire, Singapour reste à la fois un pays extrêmement développé et avec un régime assez peu démocratique.
Même si la Thaïlande, disons-le, Jean-Louis Margolin, vit dans un régime de coup d'État quasi permanent depuis un certain nombre de décennies. De ce point de vue-là, elle n'a pas eu besoin de l'influence chinoise pour avoir cette forme de d'instabilité permanente. Je voudrais peut-être faire réagir nos deux invités, puis après on arrivera au terme de cette émission, Michel Bonin et Ursula Gauthier, sur cette influence économique, mais aussi politique, on le voit, de la Chine sur les pays de la région.
Je pense que le problème fondamental, c'est qu'effectivement, la Chine maintenant s'affirme et veut s'affirme comme un modèle. C'est le fameux modèle chinois et pas seulement en Asie du Sud-Est, mais surtout en Afrique, par exemple. Donc en Afrique, par exemple, c'est non seulement un modèle, mais c'est aussi quelqu'un qui donne des conseils très pratiques. Vous avez des... Récemment, on a vu que des techniciens chinois participaient à la surveillance de d'opposants dans des pays africains. Donc voilà, c'est cette volonté et qui s'exprime aussi. De plus en plus, cette influence va aussi dans les pays occidentaux. Et notamment en Australie.
Ursula Gauthier.
Oui, alors moi je ne prendrai qu'un seul point, c'est la pression continue de Pékin sur les journalistes. Et dernier événement, récemment, il y a quelques jours, tous les journalistes en poste à Pékin ont été convoqués. On leur a remis un texte, on leur a expliqué qu'ils devaient rectifier leur façon de rendre compte de ce qui se passait à Hong Kong, qu'ils étaient en train de soutenir des émeutiers et d'apporter de l'eau au moulin d'intervention extérieure, sous-entendu américaine. Et donc que leur façon de travailler n'était pas correcte et qu'ils devaient rendre compte des choses en reprenant des termes qui sont typiques de la propagande chinoise. Donc, en fait, ils veulent influencer la façon dont le monde rend compte non seulement de ce qui se passe en Chine, mais de ce qui se passe dans le monde.
Tout ça autour d'un thé, Ursula Gauthier, c'est comme ça qu'on fait. On vous invite à prendre le thé.
Voilà, exactement.
Je me trompe pas.
Alors là, je ne sais pas s'ils ont eu droit à un thé. Je pense que même ça commence à devenir un peu moins sympa.
Merci beaucoup, Michel Bonin, Ursula Gauthier, de nous avoir éclairés, d'avoir lancé cette semaine consacrée aux aspirations démocratiques. On peut évidemment retrouver cette émission sur le site de France Culture. Il est 11h52, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour cher Brice.
Ravi de vous retrouver.
Également, plaisir partagé. Brice, la démocratie justement, on en parlait, n'aura-t-elle été qu'une parenthèse enchantée dans l'histoire des institutions politiques? Voilà la question que vous posez.
C'est la question que posait surtout Raymond Aron à Londres, où il était rédacteur en chef de la revue de la France Libre. Mais dès les années 30, il y avait de quoi être pessimiste, à l'exception de la Tchécoslovaquie. Toutes les fragiles démocraties mises en place à travers l'Europe, sur les indications du président Wilson après la victoire des Alliés en 1918, s'étaient écroulées les unes après les autres, comme un château de cartes. À cette époque, un grand nombre d'intellectuels européens estimaient que la démocratie était condamnée. Elle entretenait, disait-on, la division au sein des nations, alors que les régimes autoritaires mobilisaient les peuples au service de leurs projets grandioses. L'instabilité gouvernementale des régimes parlementaires contribuait à les affaiblir en privant leur politique étrangère de continuité. Les dictatures, qu'elles se réclament alors du fascisme ou du communisme, étaient jeunes, dynamiques, enthousiastes. Les démocraties apparaissaient exténuées, corrompues, cacochimes. Aron, qui persistait, lui, à croire que les puissances démocratiques pouvaient cependant l'emporter à la fin, était bien isolé. Et pourtant, un demi-siècle plus tard, à la fin des années 80, la démocratie avait bel et bien enterré les deux totalitarismes, contre toute attente. L'aspiration à la démocratie paraissait alors universelle et irrépressible. Après avoir triomphé des fascismes sur le terrain même où ceux-ci se vantaient de régler leurs divergences, les champs de bataille, les démocraties assistaient à l'effondrement de l'Empire soviétique et du communisme rejeté par les peuples. À cette époque, on s'en souvient, une véritable euphorie s'empara des élites intellectuelles. Le mythe de la fin de l'histoire, lancé par Fukuyama, n'était que l'un des symptômes d'une illusion fort répandue. Reprenez les déjà vieilles histoires de la démocratie, celles qui ont été écrites dans ces années 1980-90, et vous les trouverez invariablement glorieuse, vouée à l'auto-célébration. C'était le récit enchanté d'une incontestable victoire des forces de la liberté sur celle du despotisme. Sur le modèle de la phénoménologie de l'esprit de Hegel, elles étaient écrites, on dira, au futur antérieur, de manière téléologique, à partir d'une fin triomphale et connue d'avance. Elles vous expliquaient pourquoi ce succès était nécessaire et inéluctable à la manière d'une providence divine, comme si un esprit bienveillant paraissait avoir veillé à l'élection du meilleur des régimes possibles.
Or, Brice, l'humeur a changé en trois décennies. Ce bel optimiste n'est plus de saison.
Eh oui, prenez Larry Diamond. En 1990, il lance The Journal of Democracy. À l'origine, une revue savante qui étudie les progrès de la démocratie à travers le monde. En 1990, puis à nouveau en 1996, il coédite avec Mark Plattner un recueil de textes d'analyse enthousiaste, le titre « The Global Resurgence of Democracy ». Oui, à cette époque encore, la démocratie paraissait en pleine résurrection, « resurgence », et cette résurrection semblait mondiale, « global ». Par la suite, Larry Diamond s'est lancé alors dans une véritable croisade pour la démocratie en tant qu'expert en transitologie, comme on disait. Il a travaillé dans plus de 60 pays. Et voilà, revenu à son bureau de professeur de sociologie à Stanford, le même Larry Diamond vient de publier un livre intitulé « Ill Winds, vent mauvais ». Il est atterré. Après trois décennies durant lesquelles la démocratie s'est propagée, écrit-il, et une autre où on l'a vu stagner et lentement s'éroder, nous assistons en ce moment à un recul mondial de la liberté. Larry Diamond est aux premières loges. C'est dans son Journal of Democracy que Yascha Mounk a publié les articles alarmants sur le recul général de la démocratie qui ont constitué la base de son fameux livre « Le peuple contre la démocratie ». Pour Mounk, rappelons-le, l'origine de la crise actuelle, c'est le découplage entre démocratie et libéralisme, alors que le rappareillage allait de soi pour Fukuyama. En gros, la démocratie, c'est le suffrage universel et la souveraineté populaire. Le libéralisme, c'est le respect de la loi, la séparation des pouvoirs et en particulier le contrôle de constitutionnalité. Or, de plus en plus de leaders, parce qu'ils ont été choisis par une majorité d'électeurs au cours d'élections plus ou moins régulières, refusent dorénavant ces obstacles mis à leur pouvoir. Ce sont des démocrates illibéraux, Poutine, Erdogan, Orban. Mais leur attrait, pour une partie de la population, provient des obstacles mis par les juges ou les instances internationales à cette souveraineté nationale, le libéralisme non démocratique. Dans « Ill Winds, vent mauvais », Diamond met en garde de les démocraties. Les interférences de Poutine dans les élections minent les pays encore réellement démocratiques. Pour lui, elles suffiraient à expliquer l'invraisemblable victoire de Donald Trump, ce véritable « Orban américain » comme il l'appelle. En outre, les démocraties, dit-il encore, devraient resserrer leurs alliances face à la menace que la Chine fait peser sur elle, car celle-ci, vous le disiez à l'instant avec vos invités, Florian, incarne dorénavant un contre-modèle autoritaire et performant.
Merci beaucoup, cher Brice Couturier, pardon, pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Demain, Brice, vous poursuivez sur...
Oui, avec un autre livre sur le même thème.
Eh bien, rendez-vous demain.